Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Je crois qu'il faut bien se mettre en tête que ce que font Israël et les États-Unis sont deux choses qui n'ont aucun rapport. Il n'y a pas d'état-major commun. Et une partie des armes israéliennes n'est pas compatible avec les armes des États-Unis.
Ouais.
Ils en ont acheté plein en Inde et ce n'est pas aux normes de l'OTAN. Donc quand on a ça en tête, si l'on voit que les Israéliens ont assassiné d'ores et déjà le plan B des États-Unis, ils ont déjà tué les personnes sur lesquelles les États-Unis comptaient. Et ils vont lancer une opération de soulèvement des Kurdes, des Azéris, des Baloustes, des Arabes, de toutes les minorités qui sont en Iran. Je pense qu'il faut prendre acte du fait que les États-Unis sont dépassés aujourd'hui, qu'ils ont été obligés de retirer leur porte-avions qu'ils avaient prévu pour mener leur action là, ils n'ont plus cette action là, qu'ils ont perdu la visibilité de tout ce qui se passe dans cette région avec la perte de leur super radar au Qatar, qu'en fait, ils n'ont plus les moyens matériels de reprendre le dessus. Ils sont à la traîne d'Israël qui va leur imposer la suite des opérations. Donc là, je pense que c'est clair, les États-Unis ne peuvent pas gagner en Iran, ils ne peuvent pas gagner en Ukraine. Tout le monde voit que l'armée des États-Unis est à bout de souffle.
Ouais. Un super chat encore, d'ailleurs peut-être une question pour vous Thierry Messant, puisque vous connaissez bien la situation iranienne. Il y a un an environ, des secousses sismiques en Iran, ont été interprétés par des analystes comme étant des essais nucléaires.
Oui, je trouve ça vraiment une idée tordue, parce que l'Iran n'a plus de programme nucléaire militaire depuis 1988. Ça a été répété 100 000 fois. Il y a une fatwa de l'imam Khomeini qui est interdit de se doter d'armes de destruction massive, y compris d'armes nucléaires, bien sûr. Elle a été réitérée.
Suite aux armes chimiques, à la guerre chimique qui avait livré Saddam Hussein,
oui,
c'est ça.
C'est-à-dire, les gens en Iran ont vécu très difficilement cette.
La guerre chimique.
La guerre chimique et la fatwa de Khomeini.
Ah oui.
Parce que ça a rallongé la guerre contre l'Irak. Hein. Mmh. Et en Iran, vous avez énormément de gens qui souffrent des poumons parce qu'ils ont été attaqués comme ça. Moi, j'ai un ami qui est mort de ça. Je vois ce que c'est un truc absolument horrible. Bon. Donc, il n'y a pas d'armes nucléaires en Iran. C'est ce qu'a dit la directrice du renseignement national aux États-Unis.
Tulsi Gabbard. Oui.
Et elle a mis en garde contre le fait que si on renversait le régime iranien, il y avait un groupe dans l'État qui serait favorable à la bombe atomique parce que l'exemple de la Corée du Nord montre que c'est le seul moyen de résister aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, ce que les États-Unis ont fait en détruisant le système militaire iranien, en faisant ça, ils ont ouvert la voie à une bombe atomique en Iran, qui n'existait pas jusqu'à présent. C'était uniquement des racontars israéliens. Ça fait 20 ans qu'ils racontent, alors à force on le croit, mais quand on regarde chacune de leurs preuves, il n'y a rien qui tient, tout est bidon, de A à Z. Et moi j'ai...
Et l'AIEA vient de dire d'ailleurs qu'il n'y avait aucun élément de preuve comme
oui,
quoi ils allaient acquérir...
Tout ça est complètement bidon. Et lorsqu'il y a eu les négociations à Vienne et à Genève, les Russes et les Chinois ont confirmé que tout était bidon, et les Russes mènent actuellement les essais de nucléaire civil en Iran. Donc ils savent très bien ce qui se passe. On ne peut pas leur raconter de salade. Et il faut bien comprendre que ce qui pose un problème en Iran, c'est la volonté de maîtriser la fusion nucléaire, c'est-à-dire un mode de création d'énergie électrique qui serait très peu coûteux, accessible absolument à tout le monde et quasiment indéfini. Donc le rôle d'Israël dans cette intoxication depuis 20 ans et cette guerre aujourd'hui, le rôle d'Israël a été révélé par Benjamin Netanyahou lui-même, qui l'a expliqué à la télévision en Israël, et c'est encore sur le site du gouvernement israélien, il y a encore cette explication, où il dit qu'il veillera à ce que jamais ces gens-là ne maîtrisent le nucléaire. Il s'agit de protéger le principe d'avoir des multinationales occidentales qui contrôlent l'énergie à l'échelle mondiale. Et s'il n'y a plus de pétrole et de gaz, si on n'utilise pas le pétrole et le gaz, mais la fusion nucléaire, eh bien, il n'y aura plus ce pouvoir des multinationales. C'est ça que fait Netanyahou sur le plan économique et rien d'autre.
Édouard Husson, éventuellement, et après je vais poser une question sur le plan vraiment de la défaite économique aussi de l'Amérique et de l'Occident à Alex Rainer, mais peut-être déjà répondre, Édouard.
Je crois que c'est évident que qu'en assassinant l'ayatollah Khamenei, les Israéliens, les Américains ont fait sauter celui qui était un verrou. Et maintenant, je ne peux pas parler à la place des stratèges iraniens, mais maintenant, plus rien, et y compris, je pense, sur le plan éthique, moral et même religieux, plus rien n'empêche, à première vue, de dire bah, on doit y aller, ne serait-ce que pour protéger notre peuple. Donc y a un effet contradictoire, hein, me semble-t-il. Ça, c'est la première chose. Je pense, alors je rejoins tout ce qu'a dit Thierry Messant sur les objectifs de Netanyahou, je pense qu'il y en a un en plus. C'est que ce que les Israéliens voulaient absolument éviter, c'est qu'il y ait un changement naturel, une évolution naturelle du système politique en Iran, qui se serait produite avec la mort naturelle de Khamenei. Et ça, il voulait absolument l'empêcher. Le paradoxe, et là il y a certainement un effet boomerang cette fois-ci sur Israël et non pas sur les États-Unis, c'est que moi je constate la détermination militaire iranienne et j'ai le sentiment que l'Iran obtiendra au moins une partie nulle, pour parler aux échecs, puisque c'est eux qui ont inventé les échecs. Et donc à ce moment-là, c'est pas que le régime va se relégitimer, parce que je crois que c'est pas ça, c'est que pour moi qui suis historien, quand un pays, quand un gouvernement gagne une guerre, le mode d'organisation du pouvoir qui a pu gagner cette guerre permet de consolider le système politique pour les années de paix.
Bien sûr.
On a vu à l'inverse que quand un régime perd une guerre, il est renversé très souvent.
C'est la crainte de l'Union européenne avec l'Ukraine, bien sûr.
Voilà. Et donc, je pense que le grand paradoxe de ce qui se passe, c'est que avec ils ont soudé des Iraniens, là je parle du système politique, assez divisé, me semble-t-il, qui se réunit autour du cercueil de Khamenei, selon un vieux réflexe anthropologique. Et ce faisant, c'est pas ce qui donne de la survie au régime, ça oui, mais c'est que si le régime s'affirme dans la guerre, et on le voit par exemple les destructions des installations radars américaines, le fait que le porte-avions ait du feu, s'il y a une victoire face aux États-Unis, s'il bloque les tentatives de séparatisme encouragées par les Israéliens, et bien à ce moment-là, assez naturellement après, Bien sûr, le régime, le gouvernement devra répondre au souhait de la population d'être plus associé à la décision parce que la population aura fait des tas de sacrifices pour tenir dans cette guerre. Mais à l'inverse, la population dira « on a confiance dans ces gens qui ont empêché que nous soyons envahis par les États-Unis et par Israël ». Et c'est là, me semble-t-il, que se joue quelque chose d'essentiel.
Merci Édouard Husson. Je me retourne vers vous, Alex Kreiner, peut-être pour la dernière partie de cette émission. On va prendre un petit peu de temps, même s'il ne nous reste plus qu'un gros quart d'heure, sur la, eh bien, dans ce spectre de la défaite morale, on en a parlé, militaire abondamment, et une défaite économique, financière. Je vous ai entendu en parler dernièrement, vous êtes analyste de marché, donc vous connaissez bien le sujet, et vous craignez que finalement la crise de l'énergie qui pourrait être générée par ce qui se passe actuellement et qui a été créée par les Israélo-Américains, eh bien, ait des conséquences désastreuses sur le plan financier, entre autres sur le marché obligataire. On sait que nous avons un Occident qui est perclus de dettes, et que tout ça pourrait très mal finir. Expliquez-nous un petit peu votre analyse sur le sujet, Alex Kreiner.
Merci pour la question, Nicolas. Donc, le problème de l'hypothèque le problème essentiel. Si vous contrôlez une zone, un pays qui est très riche en ressources, donc ça vous rend un flux d'argent en continuation. Donc vous avez vos sociétés, genre, je sais pas, Total, EFG, BP, Royal Dutch Shell, qui extractent le pétrole ou quoi que ce soit, et qui, à partir de ses revenus, ils repayent leur dette, parce que pour développer toutes ces ressources, ils doivent le financer. Comment ils le financent? Ils empruntent l'argent des banques. Et puis, les banques, eux, il crée cet argent à partir de rien, donc de l'air. Mais en ce moment, sur leur bilan, il crée cette richesse parce que c'est une dette c'est une dette de leurs clients qu'ils doivent repayer avec intérêt.
Oui.
Donc ça crée un flux d'argent qui devient financialisé, qui vaut quelque chose, et à base de quel il crée de nouveaux argent qui rentre dans le système il permet aux banques de créer des nouveaux prêts, des nouveaux dettes, etc.
Oui.
Et donc, c'est toute une pyramide financière inversée. Et donc, mais pour avoir contrôle de cette richesse naturelle des autres pays, il faut avoir le contrôle politique.
OK.
Le moment où vous perdez le contrôle politique, vous perdez cette hypothèque, donc la richesse, le pétrole iranien, irakien, quoi que ce soit, et il n'y a plus. Donc, votre client ne peut plus extraire le pétrole et le vendre un dollar USA ou un euro pour vous repayer ses dettes. Donc, ses dettes deviennent sans valeur. Ils ne vont jamais être repayés. Donc là, ça crée un trou dans le bilan de la banque.
Oui.
Et puisque les banques sont extrêmement, je ne sais pas le mot français, leveraged. Vous savez, si vous avez un euro, vous en prêtez 10.
Oui.
C'est l'effet de levier.
Oui.
En fait, c'est l'effet de levier.
Ah oui, voilà. L'effet de levier. Donc, si vous perdez le contrôle des pays où vos clients cette production des matières naturelles, etc., matières premières, pardon, ça crée un gros trou dans le bilan de la banque.
Oui.
Et donc, soit la banque va faire faillite, ou la banque centrale ou l'État doit remplir ce trou. Donc, ce qui se passe normalement dans un système basé sur les marchés, disons, la banque va faillir. Et donc, on a eu très très souvent dans le passé les faillites des banques.
Oui.
Mais dans le monde communiste et socialiste, il n'y avait pas de grosses faillites des banques. Pourquoi ? Parce que, en effet, l'État remplissait les trous. Et comment il les remplissait ? En créant argent de rien. Et donc, ce que ça a créé une accélération d'inflation.
De l'inflation, bien sûr. Oui.
Voilà. Donc, c'est ce que nous arrive.
C'est ce qui va nous arriver.
Oui, voilà, parce que
une inflation à la Weimar.
Exactement. Voilà, exactement. Donc, on va subir un futur que sera une combinaison de Weimar et la faillite de USSR. Voilà. Et je pense que ça, c'est inévitable parce que les banques européennes, les banques américaines, ils sont très, très investis dans le Moyen-Orient.
Dans le Moyen-Orient.
Oui, voilà. Ils se sont investis en Ukraine, en Afrique, etc. Et peu à peu, on voit ce procès de décolonialisation s'accélérer.
Oui.
Et on voit aussi que l'Occident n'a plus de moyens militaires.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21+. Sponsored by Chumba Casino.
Pour retenir contrôle politique et que les pays, même comme Yémen, comme Burkina Faso, qui sont plus capables de se défendre contre l'Occident.
Oui.
Et donc là, je pense que, OK, on ne voit plus les faillites des banques parce que je pense que dans les derniers 20 ans,
oui,
les banquiers ont pris contrôle du système politique en Occident.
Oui.
Et particulièrement en mars de 2020, avec la pandémie,
oui,
ils ont carrément effectué un coup d'État qui se voit pas. Mais ils ont pris contrôle du système financier. Donc, ils n'ont plus besoin de demander au corps législatif de leur donner de l'argent pour remplir ces trous dans leur bilan. Ils le font automatiquement. Ils n'ont plus besoin de demander qui que ce soit. Donc, ils sont maintenant ils ont la possibilité de créer des quantités de l'argent illimitées. Et ils le font. Et bon. Un jour de l'eau à l'autre, ça se voit pas, ça se ressent pas.
Mmh.
Et avec le temps, vous verrez que la taux de l'inflation va s'accélérer.
Mmh.
Et un jour, ça va finir comme dans tous les pays qui ont fait ça. Moi je viens de la Croatie, en Yougoslavie, on a eu une hyperinflation.
Mmh.
Ça c'était beaucoup d'années que ça monte un peu, mais à un certain moment, ça commence à être inflation de 50% par mois. Ça, c'est complètement réaliste. Je pense que c'est difficile à imaginer en ce moment maintenant,
oui,
mais ça vous arrive à 100%. Vous savez, vous l'avez, l'image qu'on voit une avalanche se déclencher. Et les gens qui sont en train de manger leur déjeuner dans les restaurants, ils voient l'avalanche, ils ne disent rien, ils regardent. Et c'est qu'en dernier moment que tout le monde commence à courir parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en danger. Moi, je pense que l'avalanche s'est déclenchée déjà et qu'on est tous en train de manger nos déjeuners et regarder, mais Je pense que dans un futur pas très lointain, que ça va, on sera dans des gros problèmes.
Merci Alex Reiner pour cette analyse justement qui part de l'hypothèque. Édouard Husson, c'est-à-dire ils tenaient des systèmes politiques, donc ils tenaient des puits de pétrole, du gaz, des minerais, qui étaient l'hypothèque en quelque sorte, qui permettait de faire tenir sur quelque chose de solide la création monétaire, le système financier. Et là, évidemment, ils sont en train de perdre tout ça. Ça pourrait avoir un effet démultiplicateur sur l'aspect financier et l'inflation.
Ben, ce qui est absolument dramatique du point de vue américain, c'est ce qui est en train de se passer aussi avec les pays du Golfe. Parce que, bon, oui. si on se rappelle la séquence depuis 1971 et la fin du système de Bretton Woods, le lien coupé entre le dollar et l'or, ensuite, dans les années qui suivent, Kissinger et d'autres négocient avec l'Arabie Saoudite pour stabiliser, et puis surtout on remplace le dollar gagé sur l'or par le système des pétrodollars. On sait que le premier motif pour lequel un certain nombre de guerres ont été déclenchées, c'est parce que certains chefs politiques avaient eu l'impudence de vouloir commercer en autre chose
qu'en dollars
pour vendre le pétrole.
C'est vrai de Kadhafi, c'est vrai de Saddam Hussein.
Kadhafi voulait faire un dinar or et il a été éliminé. Et je pense que là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire, comme l'explique très bien Alex Reiner, c'est pas simplement contrôler le pétrole pour l'écouler. Si c'était ça, ça serait totalement idiot de faire la guerre, parce que Trump y arriverait plus vite par la paix et le commerce. Mais c'est parce que la question, c'est de contrôler directement, de manière à ce que la monnaie créée à tendance inflationniste, elle soit couverte par quelque chose.
C'est ça.
Et donc, moi, j'écoute avec effroi ce que dit Alex Kreiner, parce que ça fait plusieurs années que je lis et que j'écoute ses analyses et que je ne l'ai pas vu se tromper pour l'instant. Donc je crois que il faut se préparer à des lendemains très difficiles.
C'est ça. Thierry Messant.
Je crois que si cette hypothèse est la bonne, la réponse des gouvernements, ça va être de rentrer en guerre. Parce que ça sera le seul moyen pour eux de ne pas payer. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de mobiliser son armée. Si elle entre en guerre, le Pakistan, avec qui elle a un accord de défense mutuelle, rentrera également en guerre. La Turquie, qui se dit attaquée depuis 2 jours, c'est tout nouveau. Jusque-là, les Iraniens n'attaquaient pas la base d'Incirlik, la base des États-Unis en Turquie, maintenant ils l'ont fait. Donc si les Turcs entrent en guerre, l'Azerbaïdjan, qui a également été attaqué, entrera en guerre. Et notre président de la République est extrêmement imprudent quand il décide de venir au secours des États du Golfe et de Chypre, qui a été attaqué. Alors Chypre et la Turquie, deux pays attaqués, sont membres de l'OTAN. Si on demande à l'OTAN d'intervenir, c'est l'embrasement général. Et notre président n'a absolument pas répondu dans ses interventions à la question qui se pose. Que fera-t-il pour défendre les États du Golfe? Est-ce qu'il ira bombarder les centres iraniens qui tirent sur le Golfe, parce que s'ils se contentent d'intercepter des missiles, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce qu'il ira bombarder des centres des centres qui agressent les États-Unis dans cette région? S'il fait ça, nous serons précipités dans la guerre.
Oui, aussi. Vous êtes d'accord avec Schreiner sur le fait que on conclut maintenant l'émission, on fait un dernier tour de table, et c'était une conclusion apocalyptique. Est-ce que justement ces problèmes que vous venez de décrire peut entraîner un embrasement général et des États qui vont se précipiter dans la guerre parce qu'ils n'ont pas et qu'ils ne veulent pas rembourser.
Oui, et je pense qu'il y a des structures de pouvoir dans nos pays, dans l'Occident, dans l'Europe et aux États-Unis, qui absolument désirent ce développement. Donc, ouais. Ils veulent qu'une guerre générale avec les armes nucléaires se déclenche. Donc, ils sont en train de pousser, d'appliquer pression pour que ça arrive.
Quel serait l'intérêt?
C'est la stratégie du chaos. Donc, ouais. Ils sont en train de perdre leur... Ils sont en train de perdre contrôle. À l'extérieur et comme dans leur pays chez eux. Et donc, ça c'est la... Disons que ça, c'est symptomatique des empires qui sont en train de chuter un peu. Ils, mm-hmm. ils commencent à se désintégrer. Et à un certain moment, ils commencent à perdre les guerres dehors. Et en même temps, ils ont des pressions sociales à l'intérieur. Et donc, la solution... c'est de mobiliser la population, particulièrement les hommes de l'âge militaire, et de les envoyer en guerre et de faire le possible pour éliminer le maximum des hommes, parce que ces hommes sont exactement le plus grand risque à ceux qui ont le pouvoir dans le pays. Et donc, on y est arrivé. Et puis, quand vous avez fait la guerre, quand les dettes sont impayables, ce qui est important est de retenir contrôle de levier de pouvoir. Mm-hmm. Dans les mécanismes de contrôle de la société, il faut les préserver. À ce moment-là, donc, vous avez éliminé le risque de la révolution. Les hommes potentiellement révolutionnaires, vous les avez sacrifiés dans la guerre. Et là, vous pouvez repartir d'une page blanche. Vous créez l'argent de rien, vous créez les dettes, vous prêtez l'argent pour reconstruction, tout ce qui vient. Mais vous restez en contrôle de la société. Et donc, pour y arriver là, la meilleure solution, c'est de raser tout. Et donc, je pense qu'ils sont en train de chercher ça comme solution, d'éliminer les pressions de défaite à l'extérieur, des pressions sociales à l'intérieur, en retenant la contrôle de levier de pouvoir.
Merci Alex Reiner. Peut-être terminer par la question du super chat d'Hubert Bonisseur. Russie-Chine vont-ils laisser faire ou s'en mêler?
C'est la question est bienvenue parce que c'est ce que je voulais ajouter pour ouais. Pour réagir aux deux interventions de Thierry et celle d'Alex Reiner. Beaucoup de gens se demandent pourquoi depuis 2022, eh bien la Russie mène sa guerre de très moyenne intensité. De son point de vue, on dit mais Poutine pourrait aller plus vite, pourquoi il le fait pas, etc. On s'est demandé aussi pourquoi la Russie, la Chine, qui ont condamné ce que les Israéliens faisaient à Gaza, sont pas intervenus plus. Et puis on s'est demandé jusqu'à récemment pourquoi l'Iran ne ripostait pas, pourquoi l'Iran négociait, pourquoi. Et je crois qu'en fait Si on prend en compte la logique de ce qui vient d'être dit, ces États-là savent très bien l'état d'esprit dans lequel est l'Occident et que les gouvernants occidentaux ont besoin de la guerre.
Et, oui.
Et donc, ils retardent le plus tard possible la logique d'entrée en guerre, Mais là, l'Iran n'a plus eu le choix, ou sinon l'Iran disparaissait.
De toute façon, ils ont été agressés, c'est une guerre d'agression.
Je pense que là, il faut bien comprendre que les pays dont nous parlons, je vais simplifier, mais c'est la fin de l'émission, il y a une culture d'Asie, ou une culture orientale,
oui.
qui est celle du temps long.
Oui.
Et donc ces pays ne vont pas se laisser impressionner par les provocations occidentales. La question, c'est le moment où on ne peut plus résister aux provocations occidentales. On ne peut plus ne pas résister
On est obligé de réagir.
C'est ce que fait la Russie en mars 2022. Là, elle ne peut plus attendre. C'est ce que vient de faire l'Iran.
Elle a mis 8 ans entre 2014, Maïdan et la réaction.
Mais c'est pour éviter l'embrasement et la guerre nucléaire. Les historiens, j'imagine, dans 2 générations, 3 générations, c'est ça qu'ils diront. C'est qu'ils diront, heureusement qu'il y avait une pensée du temps long du côté de l'Asie, du côté des pays du Sud, parce que ces pays-là ont évité l'autodestruction de la planète. Donc, vous voyez, je finis sur une note un peu plus optimiste en disant, heureusement, il n'y a pas que des gens qui veulent la destruction, il n'y a pas que des nids qui essayent d'éviter le pire.
Ben merci pour cette conclusion, Edouard Husson. Thierry Messant.
Moi, je pense que la Russie et la Chine vont essayer de ne pas intervenir du tout et de laisser l'Occident et le Moyen-Orient se détruire définitivement. Moi, je reviens au début de l'émission. Pour moi, le télégramme du président Poutine à son homologue israélien, lui présentant toutes ses condoléances pour l'assassinat du grand homme qui était l'imam Khamenei, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Europe. Hein. Ici, on considère, voilà, on a tué un tyran. Le reste du monde ne pensait pas que c'était un tyran, et je pense les Iraniens en Iran ne pensaient pas que Khamenei était un tyran. C'est uniquement la diaspora iranienne qui dit ça. Et je pense que nous allons mourir sous nos propres décombres.
Ah bah vous n'êtes pas très optimiste pour la fin.
Non, je pense...
Vous l'aviez dit d'ailleurs, il y a plusieurs semaines
non,
déjà.
C'est vers ça qu'on se dirige. Il faudrait qu'il y ait un sursaut, que l'on comprenne que l'on ne doit pas participer à cette guerre. On ne doit pas y participer.
Et la France en particulier ne doit pas y participer.
La France en particulier, le seul modèle que nous avons, c'est celui de l'Espagne. Voilà.
Est-ce que vous avez un dernier mot, Alex, par rapport à la question du super chat sur la Chine et la Russie, intervenir, ne pas intervenir dans ce conflit ?
S'ils vont intervenir à Moyen-Orient ?
Oui.
Non, pour le moment, je ne le crois pas. Mais disons que je crois qu'ils vont soutenir les Iraniens avec les méthodes disons subtiles que les Américains appellent plausible deniability, donc les manières qu'on peut nier, dire non, c'était jamais nous,
oui,
on n'a rien fait. Donc s'ils le font, ils vont le cacher.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.